et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui, je reçois Marion, fondatrice de l'entreprise Les Sans Vœux, que je vais vous laisser découvrir. Pour cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur ce terme tant galvaudé de « mumpreneur », désignant les femmes entrepreneurs comme si elles étaient des Wonder Woman, preuve qu'il est possible pour une femme d'être à la tête d'une entreprise et de réussir à, je cite, « tout gérer à côté ». Pourtant, si je ne m'abuse, aucun homme entrepreneur n'est surnommé « dadpreneur ». On ne félicite pas les hommes entrepreneurs pour avoir réussi à concilier vie de famille et création d'entreprise. On n'écrit pas d'articles sur les hommes qui conjuguent biberon des enfants et entrepreneuriat. Voilà pourquoi le terme de « mumpreneur » me dérange un peu. Il vient souligner à quel point les femmes auraient par définition une place attribuée, à savoir celle de gérer l'intendance de la famille, et non pas d'être à la tête d'une entreprise. Ce terme, si aguicheur, révèle pourtant les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Être entrepreneur et être femme ne doit pas être considéré comme extraordinaire, ni félicité. Pour autant, la création d'entreprise demande du courage et de la persévérance, sans nul doute. Merci Marion de venir sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
Eh bien, bonjour Marie, moi c'est Marion, donc j'ai 36 ans, bientôt 37, et je suis donc maman de deux petits garçons et fondatrice des Sans-Vœux.
Les Sans-Vœux, du coup, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ta marque? Voilà, tout ce que ça englobe, qu'est-ce que c'est les Sans-Vœux?
Alors, les sans-vœux, ce sont des couvertures en patchwork, mais qui ont la particularité que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une personne. Et donc, chacune de nos couvertures sont accompagnées d'un livret qui reprend en fait tous les mots doux et les associe justement à un des carrés de tissu choisis et donc, à la base, c'est inspiré d'une tradition asiatique qui se fait traditionnellement pour la naissance d'un enfant. Et en fait, tous les mots doux sont regroupés dans un petit livret qui accompagne la couverture.
D'accord. Alors du coup, à l'origine, c'est une tradition asiatique, si j'ai bien compris, où les proches d'une famille décidaient de chacun assembler des morceaux de tissu ensemble pour créer une couverture. Et du coup, chaque personne avait un vœu pour l'enfant, c'est ça ?
C'est ça. Chaque tissu est associé à un vœu et de bienveillance, de santé, de sécurité, etc. Qui est regroupé en ce que nous on a décidé de regrouper dans un petit livret qui accompagne cette couverture.
D'accord.
Et au bout du compte, en fait, ces couvertures ne sont un prétexte, en fait, pour dire, pour rassembler des gens, des personnes, des proches autour d'un événement, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, et tout simplement, en fait, dire à quelqu'un qu'on l'aime très fort et qu'on pense à lui et qu'on est là pour lui.
D'accord. Et du coup, tu m'en avais un peu parlé. Du coup, c'est un cadeau participatif. Ça fonctionne vraiment où chacun peut. Participer comme un peu une cagnotte solidaire où chacun choisit la couleur de son tissu, etc. et peut laisser un vœu sur ce livret numérique, entre guillemets. Enfin, c'est si, j'ai bien compris.
C'est tout à fait ça. En fait, c'est ça. C'est la tradition qui est tellement, tellement incroyable. Moi, j'ai réalisé ma première couverture pour ma nièce, qui est un bébé très, très attendu. Quand j'ai offert la couverture à la toute jeune maman et qu'elle a ouvert le livret dans lequel était regroupé, il y avait le vœu de son papa, le vœu de sa maman, le vœu de ses frères, ses sœurs, etc. Et l'émotion qui s'est dégagée de ce moment-là, était juste incroyable en fait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je permette à tous, au plus grand nombre en tout cas, de vivre ces émotions et donc, voilà, de démocratiser un petit peu cette tradition et de faciliter la réalisation d'un cadeau participatif justement parce que l'objectif des 100 vœux, c'est de faciliter. Les étapes sont assez simples. C'est-à-dire, c'est comme le même principe que les cagnottes en ligne. On crée un projet qu'on partage avec ses proches. Et ensuite, chacun vient sur notre site choisir un morceau de tissu, écrire un mot.
D'accord.
Et ensuite, nous, on a un atelier, installé à Crépy-en-Valois, donc dans l'Oise, un petit peu au nord de Paris. Et donc, nous, ensuite, on s'occupe d'assembler les morceaux de tissu pour réaliser une couverture. Et de réaliser donc le livret avec tous les mots associés à chacun des carrés. C'est un objet complètement personnalisé et complètement unique au bout du compte et qui est fait pour durer et pour accompagner la personne tout au long de sa vie en fait.
D'accord, mais du coup, à l'origine, bien avant les 100 vœux, tu étais pas du tout dans ce domaine. Comment est-ce que tu as réussi le pari de lancer cette entreprise-là alors que au départ rien ne te prédestinait à la création d'entreprise.
Ben oui, absolument. Enfin, rien ne me destine à la création d'entreprise. Moi, à la base, j'ai une formation de professeur de français pour étrangers. Et je suis partie en Espagne pour essayer justement de devenir professeur de français en Espagne. Pour reprendre ta question, comment j'en suis arrivée là? Comment j'en suis arrivée? Mais en fait, j'ai vraiment pas choisi d'être entrepreneur. C'est juste, à l'époque, tout a commencé avec la couverture pour ma nièce. C'est vraiment ça. À l'époque, j'essayais d'être prof de français dans le système public espagnol. C'était compliqué avec la crise, le système, leur fonctionnement là-bas. Et oui, comme je te disais, quand ma belle-sœur a ouvert ce livret et j'ai vu ce débordement d'émotions, je me suis dit, mais c'est tellement dingue. En fait, on se dit tellement peu souvent les choses importantes, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est une idée qui a germé à ce moment-là dans ma tête. Mais faut bien vivre. Donc voilà, donc j'essayais d'être prof, c'était compliqué. Et puis, j'ai la chance d'avoir pu rentrer en France, de vivre, en fait, tout simplement, de chercher du boulot, de trouver voilà, du boulot, de faire ma petite vie tranquillement. Et puis, de tomber enceinte de mon fils. Et puis en fait, revenir de mon congé maternité et me dire qu'est-ce qui est important au final? Et ce boulot-là, il est plus si important que ça. Parce qu'en fait, je suis rentrée de mon congé maternité en plein été, il faisait très chaud, je me souviens, et j'avais pratiquement rien à faire. Et j'étais là à me dire, je suis là, mon fils est gardé par une nounou, et je suis là à perdre mon temps un peu en quelque sorte. Et donc, je suis allée voir mon chef à l'époque et je lui ai dit, voilà, je sais pas trop ce que je fais là. Il m'a dit, trouve-toi quelque chose à faire. Et j'ai dit, OK, je vais me trouver quelque chose à faire. Je vais développer cette petite idée-là et puis on va voir ce que ça devient, ce que ça en deviendra, quoi. Et donc, je pense que ça a vraiment été ça le déclencheur. De se dire, pourquoi je suis là et est-ce que c'est vraiment ça l'important, quoi? Et en fait, voilà.
Et du coup, tu t'es dit, bon, je vais développer cette idée de cadeau participatif. Tu as commencé par quoi? Comment tu as fait pour te faire connaître?
Mais alors déjà il fallait structurer parce qu'il y a vraiment une structure voilà c'est pas un site WordPress ou un site PrestaShop classique donc il y a vraiment une structure à penser parce que chaque couverture est unique chaque tissu ne peut être répété qu'une seule fois dans les couvertures donc il y a vraiment quelque chose un système à mettre en place donc il a vraiment déjà dans un premier temps fallu que j'applique ce système en fait et que je trouve le bon fonctionnement. Là, j'ai bidouillé sous WordPress. J'ai fait mon premier site, mais tout était manuel. Tout était manuel. Donc voilà, j'ai tripatouillé comme ça. Et ensuite, j'ai fait quelques salons dédiés aux futurs jeunes parents. Mais c'est surtout voilà pour tester en fait. Et j'avais mes amis qui me passaient des commandes, des proches, et puis un petit peu les réseaux sociaux. Ça commence à l'époque. Donc voilà, quelques premières commandes comme ça pour tester, les premiers salons qui m'ont permis aussi voilà de tester un petit peu, mais c'est surtout la première étape, ça a été surtout de passer dans la maison des maternelles qui a été un vrai tremplin pour me dire effectivement ça plaît. Parce que j'étais donc devant mon ordinateur et les messages tombaient et tout était manuel encore. Donc c'était assez impressionnant et chaque fois que quelqu'un voulait ouvrir un projet, il fallait que je réponde par mail en fait et lui dire oui votre projet est bien ouvert maintenant vous pouvez partager à vos proches etc. Enfin voilà c'était assez impressionnant quoi. C'était assez impressionnant. C'est vraiment, ça a été ça le premier. J'aime bien dire voilà qui m'a donné des ailes parce que voilà, je me suis dit tu fais quelque chose qui ne plaît pas seulement à toi, qui plaît à tout le monde. À tout le monde. C'est bien un bien grand mot, mais à beaucoup de monde. Et puis et donc ça c'était novembre 2018. Et ensuite la deuxième étape vraiment pour lancer les 100 vœux. Ça a été de participer à l'émission Qui veut être mon associé, donc qui est passée sur M6. C'est juste après donc la maison des maternelles. En regardant Capital un dimanche soir, je vois une annonce. Vous avez un projet, vous aimeriez être aidé, enfin voilà, une annance dans ce style-là. Et je suis allée voir ce que c'était. J'ai postulé j'ai passé les différentes étapes de sélection et j'ai pu tourner pour l'émission, quoi.
Ah, c'est super ça.
Voilà. Donc c'était en même temps, enfin c'était peu de temps après la maison des maternelles. Et donc c'est vraiment cette émission qui m'a permis de faire décoller les 100 vœux.
Ouais.
Voilà.
Oui, parce que du coup, l'émission, ça n'a pas seulement une visée de visibilité auprès du public, parce que ça, bon, ça a cet intérêt-là, mais c'est surtout, si je me souviens bien, ça te permet de débloquer des
Tout à
fonds.
fait.
Voilà.
Ouais, tout à fait. On a en face, donc qui va être mon associé, c'est vraiment ça. On a en face 5 investisseurs et c'est un pitch. Enfin, en tout cas, c'est préparé comme ça. Donc on y va. Et puis après, c'est répondre aux questions des investisseurs, aux différentes questions. Donc moi qui n'avais jamais fait ça, enfin voilà, c'était assez particulier. Le démarrage a été plus que compliqué, mais une fois que j'étais lancée, ça a été beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est ça. Ça m'a permis donc de lever des fonds, de trouver un associé, plus qu'un associé, parce qu'il avait, enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, ça a été vraiment un business angel dès le départ, et de structurer l'entreprise en tant que telle, en fait. Voilà, de trouver les locaux, d'acheter les machines, de faire les premières embauches, de développer le site aussi, du coup, parce que tout était, enfin voilà, j'avais commencé un petit peu, mais à l'améliorer, mais voilà, il y avait tout était à refaire, et tout ça, voilà, parce qu'il y avait la diffusion qui arrivait par la suite, et donc c'était voilà, il fallait se préparer justement à, on ne savait pas du tout, c'était la première saison, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, et il fallait être prêt au cas où bah, il y a une déferlante, quoi,
Et
et tout
ça a eu des belles retombées
ah bah.
auprès du public?
1,8 million de téléspectateurs,
Ouais.
ça a des retombées, effectivement. Enfin,
Ouais.
le soir même, on a eu une quantité impressionnante de questions, de projets ouverts. Enfin, voilà, le site était en rodage, en plus, donc on n'avait jamais eu ce volume-là, donc
Ah
il a
oui.
fallu s'organiser en parallèle, quoi. Et tout ça en étant enceinte, bien évidemment.
Pour faciliter les choses.
Tout à fait, voilà, tout à fait. Donc, oui, non, c'était. Donc voilà. En fait, c'est ça. Comment j'en suis arrivée au 100 vœux, ben, c'est toutes ces petites étapes-là, en fait, qui font
Ouais.
que j'en suis là.
Je pense que de toute manière, une création d'entreprise, c'est jamais un déclic du jour au lendemain. C'est toujours des rencontres, des idées, des choses qui se font un peu au fil de la vie. Et puis tu te. Enfin, c'est là que c'est beau la création d'entreprise parce que tu sais pas avant vers quoi tu vas et puis tu découvres au fur et à mesure, quoi.
Oui, après, je pense vraiment qu'il y a des gens, pour qui l'important, enfin voilà, leur objectif est de créer leur entreprise.
Ouais.
C'est ça. Moi, je n'avais absolument pas cette idée-là en tête. Enfin voilà, je me suis jamais projetée à diriger une équipe ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était vraiment pas du tout mon objectif ni de vie ni quoi que ce soit en fait.
Et puis c'était pas ta formation initiale.
Du tout, voilà,
C'est ça.
ça ne, enfin voilà, ça ne m'était limite jamais traversé par l'esprit, en fait.
Ouais.
Ce n'était pas une possibilité pour moi,
Ouais.
enfin voilà. Donc c'est plus de se dire, il y a une idée. Je pense que le cheminement a été plus comme ça, c'est de dire, il y a une idée, je veux pas la garder que pour moi et je veux en faire profiter tout le monde
Ouais.
et bah, faisons en sorte que tout le monde puisse en profiter.
Bah oui. Oui. Et
Voilà.
si je me trompe pas, tu as intégré dans ta démarche des valeurs quand même assez engagées, notamment une conception qui est en France des produits de qualité, des matières premières de qualité. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as fait ces choix? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, est-ce que c'est des choix réellement? Je ne sais pas. Moi, je sais. Enfin, voilà, un de mes objectifs en créant cette entreprise était aussi d'allier ma vie privée et ma vie professionnelle. Enfin, voilà. Avant, je travaillais sur Paris, donc je faisais les allers-retours tous les jours. J'ai loupé le premier anniversaire de mon fils à cause d'un problème de train. Voilà, des choses comme ça. Donc, une de mes priorités, c'était de pouvoir concilier les deux et donc de rester près de chez moi un peu en quelque sorte. Et donc ce qui fait que effectivement l'atelier est installé à Crépy-en-Valois dans l'Oise. La fabrication des couvertures est réalisée en France. C'est important pour moi. enfin, c'est important pour moi, c'est important pour ce qu'on fait, parce que chaque couverture est unique et donc il faut pouvoir justement la réaliser.
Et vous donc, êtes, il y a combien de couturières ?
On est actuellement, on est 8 en tout. Donc, nous avons 4 couturières. Nous avons une assistante couturière qui leur prépare tout le travail pour que les filles n'aient plus qu'à coudre. Et ensuite, donc, il y a 3 personnes pour ce qui est de la partie communication, service client et gestion de l'entreprise aussi. Voilà, ressources humaines, paye, etc., etc.
Et au niveau des matières premières, comment vous faites votre choix?
L'important, en tout cas dans un premier temps, l'important était de pouvoir proposer un maximum de choix pour la réalisation de nos couvertures. C'est-à-dire que si vous faites une couverture, si on fait une couverture de 20 vœux, bah, il faut que ces 20 vœux puissent représenter vraiment chacun des participants. Donc vraiment le premier objectif c'était ça. Donc du coup déjà de toute façon pour commencer j'avais déjà mon stock que j'avais été chercher dans mes chutes de tissus à moi, voilà, j'ai récupéré de chez ma grand-mère, de chez ma mère, de chez ma sœur. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et ensuite voilà, l'idée c'est de proposer la plus grande variété possible pour que chacun se retrouve et choisisse vraiment le tissu qui lui correspond le plus. Donc on a vraiment de tout, quoi. On a des tissus avec des chocolats, des bonbons en chocolat. On a on a des pirates, on a des pêcheurs, on a des princesses. Enfin, on a vraiment des étoiles, des pois. C'est vraiment ça l'objectif. Là, on est à près de 700 références de mémoire.
Ah oui, c'est énorme. Ça.
Voilà, 700 références.
Donc en fait, chaque participant a vraiment le choix du tissu qu'il veut, et ça permet de créer des couvertures où il n'y a pas un carré de tissu qui est pareil que l'autre, quoi.
Tout à fait. Bah, de toute façon, ça c'est le principe même des couvertures des 100 vœux, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque carré représente une personne et son vœu. Il est unique sur chacune des couvertures.
Et du coup, oui, je pense que finalement... développer ton activité aussi en France, c'était aussi une manière de favoriser l'emploi local, tout simplement. Enfin,
tout à fait. Ah ben, tout à fait. Mais enfin, comme je te disais, voilà, j'ai vécu un certain temps en Espagne. J'ai travaillé du coup aussi à l'étranger. J'ai travaillé pour l'étranger aussi en France. Et le système français est tel qu'il est. Mais on a de la chance d'avoir une certaine protection des salariés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc ça me semble aussi important, voilà, de pouvoir de sentir fier, de dire on arrive à produire quelque chose en France. Et on arrive à le faire ici. Et donc oui, ça a un prix et on est obligé aussi de le répercuter sur nos prix à nous. Donc voilà, mais bon, c'est un parti pris, quoi. Voilà, oui, on pourrait le faire, on pourrait trouver un atelier lointain qui le fait. Mais est-ce qu'on aurait le même résultat au bout du compte? Je sais pas. Pour moi, en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas envisageable.
Ouais.
Et dans notre fonctionnement au quotidien, c'est difficilement envisageable.
Je pense qu'en plus, on est dans une période, dans une période où les gens, je pense, ont de plus en plus envie de faire des choix quand même éthiques et ont de plus en plus envie de privilégier la fabrication française pour des raisons environnementales, pour des raisons sociétales, enfin tout ce qu'on veut. Et je pense que ça a une certaine logique aujourd'hui de développer une entreprise française qui fabrique ses produits en France avec des couturières françaises. Ça a une certaine logique, on va dire.
Non, ça me semble, c'est ça. Après, il y a un savoir-faire aussi qui, du coup, disparaît, parce que c'est vrai que de plus en plus, à force d'aller loin, finalement, on ne sait plus réellement faire ici. Et ça, on peut le ressentir dans les recrutements. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple de recruter des couturières. Et ça, voilà, ça c'est une des choses auxquelles on fait face dès qu'on a besoin de faire un recrutement, en fait. Enfin, c'est la situation du coup est un peu compliquée, en fait, pour justement pour pour nous qui souhaitons, qui avons installé notre atelier ici, bah ouais, au bout du compte.
Ouais, c'est pas évident de trouver des couturières.
C'est ça. Ouais, y a, on peut avoir des difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés parce qu'au bout du compte, on a trouvé et on a une, voilà, j'ai actuellement une équipe qui cartonne et qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Après, c'est ça aussi, c'est de les faire grandir en même temps qu'on fait grandir l'entreprise. Donc c'est un bel objectif. Il faut voilà, il faut y arriver. Il faut y arriver. Mais je vais y arriver.
Bah oui, tout à fait. Alors, par-delà l'entrepreneuriat, tu es aussi maman de deux enfants. Alors, ce n'est pas inconciliable, au contraire, mais quand même, comment est-ce que tu arrives à concilier ton quotidien de maman et puis ton quotidien avec ton entreprise ? Je précise quand même que je poserais la même question si tu étais un homme. Hein.
Oui, c'était une question. En fait, c'est ça, c'est la... Quand tu me l'as posée... Voilà, quand tu me poses la question, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi on demande ça aux femmes et pourquoi on ne demande pas ça aux hommes ? Mais après, moi, je réponds en toute transparence et en toute franchise. Enfin, moi, je pars du principe, et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'un enfant, on le fait à deux. Et donc, mes enfants ont un super papa. Voilà, ça c'est de base, c'est la première chose. Ils ont un super papa, ils ont un papa qui me soutient dans toute cette aventure, qui m'a aidée dès le début et qui a envie justement de voir les sans-veux devenir une belle et grande entreprise. Donc, il partage avec moi cette vision pour l'entreprise. Il est présent et on se répartit les tâches, tout simplement, en fait. On se répartit les tâches et voilà, c'est moi qui m'occupe des enfants le matin. C'est lui qui s'occupe des enfants le soir, l'après-midi. J'essaye d'être présente, je me fixe des limites, en fait, pour essayer d'être présente, le fameux tunnel 18-20 heures. Et voilà, j'essaye aussi d'être disponible les week-ends et de déconnecter les week-ends et quand je suis avec eux. Après, ce n'est pas toujours simple.
Ouais.
C'est pas toujours simple parce que le cerveau fonctionne peu importe ce qu'on essaye de faire en fait au bout du compte. Donc voilà, mais c'est vraiment voilà, c'est ce soutien là qui est le plus important. Mais ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple de trouver ce rythme-là, surtout qu'on est le lancement donc de l'entreprise avec la diffusion de Qui veut être mon associé était en février 2020. Ouais. Donc juste avant le confinement.
Ah oui.
Voilà. Donc là, ça a été extrêmement compliqué, ouais. Parce que du coup, moi, je me suis pas arrêtée. Ouais. Le confinement n'a pas arrêté les sans-veux. Voilà, on vend sur Internet, donc il y avait pas de raison réelle de s'arrêter. On venait d'être lancé et on pouvait pas s'arrêter, c'est vraiment ça. Et donc c'est lui qui a fait le confinement tout seul. Ouais. La plupart du temps tout seul avec les deux enfants dont un qui avait 6 mois quoi, quelque chose comme ça. Donc le plus petit avait 6 mois, ouais, il est d'octobre donc
Oui, ça devait être un peu sportif.
À un moment j'ai eu peur, mais bon, mais il a tenu bon et enfin il mérite une statue au milieu de l'atelier. Enfin voilà, parce que dès qu'il peut, il vient nous aider aussi. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une belle déclaration d'amour en fait.
Ouais, aussi.
C'est le pilier quoi. C'est le pilier d'un peu tout. Et ouais, tu vois, c'est d'être la mère parfaite, ça c'est sûr et certain. C'est ça, c'est.
Bah, tu fais de ton mieux en tout cas.
Voilà, c'est ça, je fais de mon mieux, mais en fait, c'est ça qui est compliqué, je pense que c'est ça qui est compliqué, l'image qu'on peut avoir d'une bonne mère, l'image qu'on peut avoir d'un bon père, l'image qu'on peut avoir d'un bon chef d'entreprise, l'image qu'on peut avoir d'une bonne chef d'entreprise, et en fait, c'est là où tout se mélange, en fait.
Ouais.
Et c'est là où on essaye d'être bon partout, et en fait, on ne peut pas être bon partout.
Ouais.
Et on peut faire de notre mieux, tout simplement. Ouais.
Mais je pense que c'est important en tout cas de rappeler que ça, en fait, ça devrait pas être souligné que tu es entrepreneur et mère de famille. Et oh là là, mon Dieu, comment est-ce que le papa fait, enfin, et c'est alors que, tu vois, c'est l'inverse, on le demande jamais, enfin, on dit jamais aux hommes qui sont entrepreneurs, on dit jamais, mais mince, mais comment fait votre femme du coup, enfin, tu vois.
Et... Oui, c'est complètement surprenant, mais il y a beaucoup d'images comme ça qui circulent, ouais. qui circulent. Enfin, un papa qui ramène un McDo, c'est un super papa. Une maman qui ramène un McDo, c'est une maman fainéante. Ouais, enfin voilà, des choses comme ça. Enfin, c'est un exemple comme un autre. Ouais. Mais un papa qui joue au parc avec ses enfants, c'est un super papa. Une maman qui joue au parc avec ses enfants, ben elle fait son boulot, quoi. Ouais. Donc c'est cette vision justement de la société qui mais à l'inverse aussi un chef d'entreprise qui est constamment disponible qui fait 7h 20h est-ce que c'est un meilleur chef d'entreprise au bout du compte,
enfin, ouais, c'est ça.
C'est cette ambivalence là en fait de se dire est-ce que vraiment ces codes là qui doivent être suivis pour être bon, et en fait je pense pas. Mais c'est tellement incrusté dans la tête de tout le monde.
Ouais. Et je pense que le fait d'être chef d'entreprise, il y a beaucoup une connotation de performance, de personne qui est partout à la fois, qui fait des horaires pas possibles, qui doit tout mener de front. Et en fait, il y a beaucoup cette stigmatisation, alors que la course à la performance ne veut pas forcément dire que ton entreprise est meilleure ou qu'elle réussit mieux. Et en fait, moi, c'est ce que je reproche un peu aux magazines qui parlent justement des femmes entrepreneurs et qui en parlent comme si c'était exceptionnel et comme si ça devait être mis en valeur. Bah, en fait, oui et non. Enfin, quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est toujours bien. Mais de là à souligner que parce que c'est une femme, c'est exceptionnel, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi.
Complètement. Mais c'est ça qui est, enfin ouais, c'est surprenant. Moi, ça me surprend en fait. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai jamais eu l'impression, en fait, de m'empêcher moi-même ou d'être empêchée parce que je suis une femme en fait. Je considère qu'on a tous nos capacités d'une manière ou d'une autre, et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et ouais. qu'on fait du mieux possible. Et donc ouais, c'est ça. Ça me surprend parce que justement, je me suis jamais mis moi-même ces limitations, et c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire, et c'est pas parce que mon conjoint est un homme qu'il ne peut pas faire à manger. Enfin voilà, ça. Mais peut-être aussi parce qu'on a cette vision-là de base dans notre vie quotidienne en fait, au bout du compte.
Ouais. Toi, t'as jamais ressenti de frein à ta création d'entreprise parce que t'étais une femme?
Absolument pas. En tout cas, j'ai pas cette sensation-là. C'est ça. Voilà, après, c'est pareil. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui s'auto-congratule. Je ne sais pas si ça se dit, ce mot-là. j'ai beaucoup de mal à me féliciter moi-même. Donc, c'est peut-être tout simplement ça, en fait, de vouloir toujours plus et d'avoir envie de toujours plus et de ne pas se mettre de limites.
Ouais.
Parce qu'on est une femme, parce qu'on a des enfants, et parce que ou pas parce que peu importe quoi d'autre en fait, quoi.
Ouais.
Je pars du principe que tant qu'on n'essaye pas, bah on peut pas savoir si ça marche ou pas.
Bah c'est sûr.
Et donc combiner enfant et travail en règle générale en fait. Ouais. Combiner enfant et travail, ça se fait en fait au bout du compte.
Bah oui. Et toi, si j'ai bien compris, dans ton entreprise, tu as surtout des collaboratrices qui sont donc des femmes. Qu'est-ce que tu as mis en place, ou du moins, quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur au travail?
Ben justement, ouais. Alors, c'est des collaboratrices. C'est pas parce qu'on ne prend que des femmes, c'est pas parce qu'on n'embauche que des femmes, mais surprenamment, on a très peu de CV d'hommes quand on fait des recrutements et de CV pertinents, parce que c'est ça aussi. Il faut, voilà, ouais. On a. Donc, oui, effectivement, on est 8 femmes. C'est un film de François Ozon, ça. Il me semble, non? Mais oui. On est 8 femmes et en fait, oui, c'est ça. Et moi, ce qui me semble important, justement, c'est de leur permettre aussi à elles de combiner vie privée et vie professionnelle. Et qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles aient certaines charges ou d'autres, enfin voilà, d'arriver à équilibrer tout ça. Donc on a des, enfin par exemple, on a des horaires flexibles en quelque sorte, dans le sens où voilà, on peut arriver un petit peu plus tard, c'est pas très grave, on peut repartir un petit peu plus tard aussi. Voilà, de condenser aussi les horaires par exemple, et que justement les mamans puissent déposer les enfants le matin, aller les chercher le soir, des choses comme ça. Enfin voilà, d'essayer justement de chacune puisse équilibrer sa vie privée, sa vie professionnelle. Enfin voilà, moi j'ai travaillé dans un monde en tant que salariée, dans un monde super masculin en fait, et justement, enfin, il y a des choses que je ne veux pas reproduire. J'ai vu des choses, voilà, non, il en est hors de question que ça se reproduise, tant pour moi en tant que femme que de reproduire des schémas qui voudraient que le chef d'entreprise soit comme ça ou soit comme ça en fait. Donc ouais, c'est ça, de toute façon c'est ça, je pense que le plus important c'est ça, c'est d'arriver à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et de mettre en avant les compétences de chacun, peu importe que ce soit un homme ou une femme en fait.
Ouais.
Et après c'est ça, après c'est la partie peut-être la plus le défi encore qu'il faut terminer de relever, c'est que comme dans toute équipe en fait, et que ce soit des hommes ou des femmes, chacun a son propre fonctionnement et a ses propres besoins et a ses propres capacités et ses propres compétences, et donc c'est d'arriver à faire en sorte que l'équipe fonctionne sans de les faire fonctionner en équipe sans pour autant effacer les particularités de chacune. Enfin, voilà, c'est cette partie-là plutôt qui me semble importante à souligner, et non pas de dire c'est une femme et comment elle arrive à gérer avec ses enfants, quoi.
Ouais, carrément.
Voilà, et de trouver le bon équilibre pour tout le monde.
Ouais, du coup, ça ne devrait pas être un sujet, le fait d'être chef d'entrepreneur et d'être une femme ou d'être un homme. Ça ne devrait pas être souligné.
Ou au contraire, en fait, ça devrait être souligné. La question devrait être posée aussi au papa.
Voilà.
Au papa entrepreneur. Et je suis sûre qu'on aurait des choses super intéressantes, en fait. C'est vraiment... Ma curiosité me pique, quoi. Enfin, ouais. Et justement, des gens avec plus d'expérience aussi peut-être, parce qu'il y en a, enfin, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, avec plus d'expérience, et de poser la question justement, comment vous avez fait, comment vous avez concilié les deux, et est-ce que vous auriez des choses à changer, enfin, est-ce que vous feriez les choses différemment maintenant? Je serais super curieuse de savoir ça, en fait.
Ouais. Mais alors toi, du coup, en tant que femme, comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat?
Comment est-ce que je vois l'entrepreneuriat? C'est une suite d'essais et d'erreurs.
Ouais.
Moi, je le vois comme ça, en fait. C'est un apprentissage constant. En tout cas, pour moi, ça reste vraiment de mon point de vue, je ne sors d'aucune grande école de commerce, qui n'ait aucune autre expérience non plus que celle-ci. Mais justement, voilà, pour moi, c'est ça, c'est un apprentissage constant d'essais et puis d'erreurs, et puis de re-essais, et d'essayer différemment, et d'essayer autre chose, et de trouver ce qui fonctionne pour les 100 vœux, et ce qui fonctionne pour les 100 vœux ne fonctionnera peut-être pas chez quelqu'un d'autre. C'est pour moi, c'est ça, c'est... de trouver des solutions, en fait. D'être constamment en train de trouver des solutions.
Des solutions, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais c'est intéressant.
Peut-être. Écoute, après, voilà, c'est ma vision. Comme je te dis, c'est ma vision des choses. J'ai 3 ans d'expérience. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens très qualifiés et qui ont d'autres visions et d'autres choses à dire. Mais là, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que... Et peut-être que dans 10 ans, j'aurai une autre vision. Mais oui, voilà, c'est de trouver des solutions pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, en fait.
Ouais. Mais d'ailleurs, comme dans toute entreprise, il y a des difficultés. Je me doute, c'est jamais simple. Est-ce qu'au cours de ton projet et du lancement des 100 vœux, est-ce que tu as rencontré justement des difficultés et comment tu les as dépassées du coup?
Ben, en fait, nous, la plus grosse difficulté, je pense, qu'on a pu avoir, parce que c'est ça aussi, moi, je suis pas une personne qui s'arrête sur une difficulté et qui n'avance pas, quoi.
Ouais.
Donc, la plus grosse difficulté, ça a été le lancement, la diffusion, donc, de qui va être mon associé, donc, le lancement et ensuite enchaîner avec le Covid.
Ouais.
Parce que ça a été vraiment, voilà, un site en rodage avec le volume qu'on a pu avoir, gérer ce volume qu'on ne connaissait pas, l'incertitude des expéditions, par exemple, c'était aussi bête que ça, mais ok, si nous on peut produire, mais est-ce que ça va pouvoir partir? Les effectifs réduits avec les gardes d'enfants, les écoles qui ferment, enfin voilà, c'était aussi alors qu'on commençait tout juste, quoi.
Ouais.
Et puis les difficultés pour faire arriver des nouvelles machines, pour faire arriver la matière première, pour faire arriver et pour recruter tout simplement.
Ouais.
Donc ouais, non, ça a été une époque assez costaud et voilà, ça a tangué plutôt pas mal, mais on a réussi à s'en sortir en équipe justement et on a réussi à aller de l'avant. Mais ça a été une époque assez avec un nouveau costume pour moi endossé en fait, parce que ça a vraiment été ça, de se dire tu deviens chef d'entreprise là vraiment.
Ouais.
Là vraiment, donc c'est pour ça, voilà, c'est comme je te dis, voilà, il y a des erreurs, voilà, il y a eu des erreurs, on a appris et on les refera plus et on en fera d'autres et on apprendra encore.
Ouais. Et quels sont les projets que tu as pour les 100 vœux? Comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans?
Dans 5 ans ou dans 10 ans? Moi, je te dirais dans 50 ans. Comment je vois les 100 vœux dans 50 ans? En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie pour les 100 vœux, c'est qu'on devienne le nouveau réflexe comme cadeau de naissance, en fait, dans un premier temps. Et pour les autres occasions, bien évidemment, mais vraiment de devenir le nouveau réflexe là actuellement. Voilà, t'as une naissance autour de toi. Le réflexe, c'est d'aller acheter un petit doudou, un petit quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, des doudous, il y en a plein. Des vêtements, ça s'utilise très peu au bout du compte. Enfin, et réellement, de quoi a besoin un nouveau-né? De quoi a besoin un nouveau-né, en fait? Je ne t'ai même pas demandé si tu avais des enfants.
Non.
Toi? Non.
Oh là là. Alors, c'est très drôle parce que j'ai 27 ans. Presque 28. Le monde de la maternité, ça me passionne. J'ai fait beaucoup d'épisodes sur ce sujet-là avec des mamans autour de la parentalité, etc. C'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant. Mais alors, je ne me sens absolument pas concernée. Genre, c'est le truc qui me fait flipper comme pas possible. Genre, c'est... Mais par contre, le sujet m'intéresse énormément. Vraiment.
Ouais. D'accord. Mais écoute, tu fais bien comme tu veux, j'ai envie de te dire.
Ouais.
Non, mais c'est ça. C'est... Si tu te sens pas prête, c'est voilà. C'est... Si tu te sens pas, tu te sens pas. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à... Mais voilà, ça, c'est... Mais en tout cas, voilà, pour l'avoir... En tout cas, moi, de mon point de vue, comme je l'ai vécu, encore une fois, la naissance d'un enfant, on achète plein de trucs. Ouais. En tout cas, du premier, on achète plein de trucs. Et au bout du compte, est-ce que... Et c'est ce que je me suis... La question que je me suis posée pour mon deuxième, au bout du compte... De quoi vont vraiment nous besoin?
Ouais.
Et au bout du compte, en tout cas, encore une fois, dans ma vision des choses, il y a un proverbe africain qui dit ça. On a besoin d'une tribu pour faire grandir un enfant.
Mmh.
Et c'est cette tribu-là, et nos couvertures, en fait, c'est ce symbole-là. C'est le symbole de la tribu, des gens qui sont autour, du cercle familial, du cercle des proches, des amis qui sont présents et qui vont être un soutien tant pour la maman que pour le papa, que pour le bébé. Enfin voilà, le matériel, au bout du compte, est-ce qu'il est vraiment nécessaire?
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est ça, donc voilà, et le monde de la puériculture est extrêmement concurrentiel et on sort de nouvelles choses tous les jours, il y a des nouveaux objets, il y a, voilà, et on a l'impression que c'est essentiel. Et ouais, il y a des trucs qui sont essentiels, bien évidemment, mais au bout du compte, voilà, qu'est-ce qu'il en reste quand, ouais. au final ? C'est ça la question que je me pose.
Bah, c'est vrai que le monde de la puériculture, comme tu le dis, est très concurrentiel. Enfin, là, moi, je suis rédactrice pour plusieurs sites et j'écris notamment des articles en lien avec la puériculture. Et c'est dingue le nombre de marques qu'il y a pour un même produit. Il suffit de voir les événements comme le Salon Baby, enfin, où à chaque fois, tu as des milliers de marques qui sont représentées, de nouveaux concepts autour de la puériculture. Enfin, et au final, est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là pour le bébé ? Bah, c'est pas sûr. Il y a probablement des choses qui sont moins indispensables que d'autres. Et ouais. C'est vrai qu'une couverture, ça peut servir de tapis d'éveil, ça peut servir de plein de choses. Enfin, c'est quelque chose qui reste, quoi.
C'est ça. C'est surtout que ça évolue en même temps que l'enfant. Ça évolue en même temps que l'enfant. On a toujours besoin d'une couverture chez soi, au bout du compte.
Ouais, oui.
Et voilà, et nous, on l'a pensé. Et après, ça reste du tissu. Donc, bien évidemment, c'est pas indestructible, malheureusement.
Oui.
Mais voilà, on fait en sorte, en tout cas, on prend un soin important à sa réalisation pour que justement la couverture puisse être utilisée et puisse durer pendant longtemps. Et enfin, moi, je le vois avec celle de mon fils. Encore hier, il s'est couché avec et il me dit, il m'a dit, voilà, c'est tout le monde qui est autour de moi. Donc là, la symbolique est extrêmement forte. Et moi, je ne peux bien évidemment pas m'empêcher de verser ma petite larme à ce moment-là. mais c'est ça, en fait. Au moins, je me dis, voilà, il sait qu'il y a des gens qui sont autour de lui, quoi.
Ouais.
Qu'il est entouré, qu'il n'est pas seul. Et je pense que ça, imagine que tout le monde ait cette sensation-là.
Ouais, c'est hyper fort.
C'est hyper fort, en fait, que tout le monde sache qu'il est attendu ou pas, enfin voilà, mais qu'il est entouré, quoi.
Ouais.
Qu'il est entouré à un moment de sa vie, qu'il est entouré. Voilà, le monde serait bien différent.
Ah oui.
C'est très utopiste, hein.
C'est vrai qu'en plus, quand l'enfant grandit, il peut du coup avoir connaissance du livret, le découvrir aussi.
Tout à fait. Ça c'est exactement ce que j'ai dit. Enfin, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Il m'a demandé justement. Il me dit, celui-là, c'est de qui et ça dit quoi ? Je lui dis, écoute, tu le liras quand tu sauras lire.
Ouais.
C'est évolutif en même temps parce que voilà, je peux lui dire oui, ce carré-là est de un tel, ce carré-là est de un tel. Mais lire les vœux, par exemple, j'en suis incapable.
Ouais.
C'est trop d'émotions, donc je préfère qu'il les découvre par lui-même quand il aura appris à lire.
Bah ouais, c'est hyper symbolique, je trouve, cette idée que la couverture réunit un peu toutes les personnes qui ont pensé à toi pour la naissance ou alors pour le baptême. Mais en fait, finalement, ce genre de cadeau, ça peut être étendu à d'autres événements de la vie.
Ah ben tout à fait. Nous, on le voit au quotidien. Enfin, nos créateurs de projets ont tous plus d'imagination les uns que les autres. Et ouais, effectivement, toutes les occasions sont bonnes. C'est ça. On fait des couvertures pour des naissances, pour des baptêmes, pour des anniversaires, pour des mariages. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour des départs en retraite, pour la fin de l'année scolaire, pour les maîtresses, par exemple.
Ah ouais.
Une classe qui se réunit et qui laisse un petit message. Vous imaginez c'est fort. C'est fort, c'est ça, c'est fort. Et que la maîtresse puisse en accumuler qu'elle ait un souvenir de toutes ses classes.
Ouais.
J'adorerais. J'ai mon expérience de prof et j'adorerais avoir eu ça, quoi.
Ouais.
Et des départs en retraite, mais même des accompagnements dans la maladie. Enfin, je veux dire,
ouais.
c'est quelqu'un qui est malade. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de recevoir autant d'ondes positives, en fait.
Mais j'ai une question pratique. Est-ce qu'il y a une limitation de participation ou un minimum ?
Il y a un minimum, c'est-à-dire qu'on fait on fait des couvertures à partir de 8 vœux.
D'accord.
Mais après, on n'a pas réellement de limitation. Après, ça marche par palier parce qu'il y a des combinaisons mathématiques qui sont mathématiquement impossibles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une couverture de 22 vœux, par exemple.
Ouais.
Donc voilà, il y a des combinaisons qui sont impossibles à faire. Mais non, on a fait... notre plus grande couverture était une couverture de 234 vœux. Et oui, elle était très très grande. C'était 2 mètres sur 5 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était une petite fille donc qui était malade, malade du rein. Donc sa maman a une belle communauté sur Instagram. Elle a demandé à sa communauté de participer au projet de sa fille, donc qui était en attente de greffe. Et donc voilà, donc la communauté s'est mobilisée pour réaliser cette gigantesque couverture.
Ah, je suis d'accord, là c'est un paravent, là, c'est énorme.
C'est ouais, une moquette pratiquement.
Ouais.
Ouais, non, non, c'était très grand. Et donc, à faire, oui, à faire, c'était rigolo aussi.
Ah oui, bah, je me doute.
Mais je te dis, voilà, j'ai une super équipe et elles sont très fortes. Elles sont très, très fortes.
Bah, dis donc. Et
Ouais.
pour finir, la fameuse question que je pose à chaque fois, que t'évoque la phrase « Sois sage et parle fort ».
Ah, alors celle-là, pour moi, c'est la duplicité de la femme actuelle, en fait. Sois sage. Pour moi, le sois sage, c'est fais pas, sors pas du chemin tracé. Mais d'un autre côté, parle fort quand même, fais-toi entendre. Donc c'est ça, c'est d'arriver à être assez maline. J'ai envie de dire, assez maligne pour justement ne pas trop sortir du rang, mais quand même faire changer les choses à ton échelle, en fait.
J'aime beaucoup ta vision de cette phrase. Ça
Merci.
me parle beaucoup.
Ben oui, je pense.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est être sage, mais pas trop, quand même. Parler fort des choses importantes. Donc voilà. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu sur le podcast pour nous parler de ton projet, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de cadeaux symboliques, que je trouve ça chouette de pouvoir parler d'une marque française qui prône de belles valeurs.
Ben, je
C'est
te remercie à
chouette.
toi de m'avoir accueilli dans cet espace.
Avec grand plaisir. J'espère évidemment que toutes les personnes auront apprécié notre échange. Évidemment, je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode pour retrouver le compte Instagram Les 100 Vœux et le site internet si vous avez envie de créer un projet participatif autour de la création d'une couverture. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup.
Ben, merci à toi. C'est
Avec
un plaisir.
un grand plaisir partagé. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à aller voir le site Les 100 Vœux, à laisser un commentaire sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort beaucoup.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.